VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 23 octobre 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Des sénateurs américains réclament plus d'informations sur l'embuscade qui a coûté la vie à des soldats américains et nigériens au début du mois au Niger.
Fin de la tournée des ambassadeurs des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU au Sahel.
En Côte d'Ivoire, retour au pays du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, après une absence de plus de 2 mois.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu demain en Centrafrique.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson réclame le départ des milices iraniennes présentes en Irak.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Des sénateurs américains influents ont demandé hier à la Maison-Blanche de fournir plus d'informations sur la présence militaire des États-Unis au Niger, où 4 soldats américains et 4 soldats nigériens ont été tués dans une embuscade le 4 octobre dernier. Dans des interviews séparées au programme Meet the Press, le républicain Lindsey Graham et le démocrate Charles Schumer ont exprimé leur soutien aux efforts de leur collègue républicain, le sénateur John McCain, pour obtenir tous les détails sur cette attaque, ainsi que sur l'ampleur de la campagne américaine contre le groupe État islamique au Niger. Monsieur Graham, tout comme Monsieur Schumer, a avoué qu'il ne savait pas qu'il y avait 1 000 militaires américains dans ce pays africain. En rencontrant la semaine dernière M. McCain, qui préside la commission des forces armées, le secrétaire à la défense, James Mattis, avait déclaré que le Pentagone ajustait sa stratégie de lutte contre le terrorisme pour un plus grand accent sur l'Afrique.
Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont bouclé dimanche à Ouagadougou une visite dans le Sahel, qualifiée d'utile par la France dans la perspective du lancement de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Nous avons la satisfaction de voir combien cette visite très dense, il est vrai, a été utile, productive et riche d'enseignements positifs pour nous tous, a déclaré l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, à l'issue d'une rencontre des ambassadeurs avec le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. À l'initiative notamment de la France, qui préside en octobre le Conseil de sécurité, les ambassadeurs des 15 pays siégeant au Conseil ont visité depuis jeudi le Mali, la Mauritanie et le Burkina Faso. Ils devaient repartir pour New York dimanche soir.
Au Mali, les ambassadeurs du Conseil de sécurité ont visité hier à Sévaré le poste de commandement de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. À Bamako, la veille, ils avaient exprimé leur impatience face au retard dans l'application de l'accord de paix de 2015. Retour sur l'étape malienne avec notre correspondant à Mopti, Mamadou Bokoum.
Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont rencontré le commandant de la force conjointe du G5 Sahel, le général Didier Dacko.
Nous attendons un appui politique, fondamentalement d'abord une reconnaissance de la force et puis un accompagnement en termes d'équipement, en termes de formation, en termes de développement capacitaire en quelque sorte, pour que la force puisse répondre de façon efficace aux attentes des pays du G5 Sahel et des populations.
Des populations qui souffrent aujourd'hui de l'insécurité, particulièrement dans les régions centrales du Mali. Tata Touré est la présidente des organisations de la société civile de Mopti.
C'est une insécurité infernale. On ne peut plus aller au marché, on ne peut plus voyager, nos enfants ne peuvent plus aller à l'école. On est fatigué, on est très fatigué.
Un cri de cœur qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. François Delattre, ambassadeur de la France auprès des Nations Unies.
Leur cri de détresse à certains égards est de dire nous avons impérativement besoin de vous pour rétablir des conditions de sécurité décentes dans la région. Et maintenant, c'est à nous d'apporter à la force du G5 Sahel le soutien dont elle a besoin.
En attendant, les populations de la région prennent leur mal en patience. Mamadou Bokoum Mopti pour VOA Afrique.
3 femmes kamikazes se sont fait exploser dimanche soir à Maïdougouri, capitale de l'état du Borno au Nigeria, faisant 13 morts et 16 blessés, c'est ce qu'on a appris de sources sécuritaires. Selon une source militaire citée par l'AFP, une alerte avait été lancée dimanche à Maïdougouri après que de nombreux membres du groupe de Boko Haram ont été aperçus rôdant autour de la ville.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu demain en Centrafrique, où des violences ont redoublé dans les provinces et le mandat des casques bleus de la MINUSCA doit être renouvelé. Le point avec Idriss Fall.
Ancien patron du HCR, Antonio Guterres, s'est déjà rendu en Centrafrique. Cette visite sera sa première à une mission de maintien de la paix depuis sa prise de fonction en janvier. Le secrétaire général de l'ONU arrive dans un contexte sécuritaire tendu. Bangui, la capitale, est relativement calme, mais ces dernières semaines, les affrontements à répétition ont eu lieu vers Bambari, Bria et Bangassou, faisant des centaines de morts. Rien qu'à Bangassou, où doit se rendre M. Guterres, 12 casques bleus ont été tués depuis le début de l'année. Dans un rapport présenté au Conseil de sécurité, le patron de l'ONU a demandé l'envoi de 900 soldats supplémentaires. Le mandat de la MINUSCA avec ses quelques 10 000 casques bleus doit s'achever le 15 novembre et devrait être renouvelé. La mission onusienne est accusée de passivité et même de collusion avec des groupes armés et subit dans le même temps une avalanche d'accusations d'agressions sexuelles.
En Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a regagné Abidjan hier soir après une absence de plus de 2 mois du pays. À noter que son chef du protocole, Souleymane Camarate Kone, dit Soul to Soul, a été récemment incarcéré dans le cadre de l'affaire d'une cache d'armes découverte chez ce dernier à Boaké. Narita Namasté.
Guillaume Soro a accueilli à l'aéroport international Félix Foué-Boigny d'Abidjan peu avant 19h locale par ses partisans qui scandaient son nom. Guillaume Soro aussi a appelé Tenik Banani l'enfant terrible ou encore Bolgota, dit être venu prendre sa place dans le jeu politique ivoirien.
Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement, et aussi fidèle à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire.
Un retour Beka qui intervient dans un climat politique pénitieux entre l'ex-secrétaire général des forces nouvelles de l'ex-rébellion et son mentor Alassane Ouattara. Une querelle alimentée par l'arrestation pour complot contre l'État début octobre dernier de son chef de protocole après la découverte en mai d'une cache d'armes dans sa résidence de Boaké. Guillaume Soro prévoit dans son agenda au plus pressé rencontrer Ouattara pour sûrement avoir des explications.
Dans les prochains jours, avec beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui.
Soutoussou, quant à lui, depuis sa prison, accuse le pouvoir Ouattara de viser indirectement Soro. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a annulé hier la nomination du président Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté de l'OMS. Sa décision avait suscité une vive polémique. Le point avec Jean-Roger Bion.
J'ai décidé d'annuler cette nomination, a écrit hier dans un communiqué le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancien ministre éthiopien des Affaires étrangères. Monsieur Tedros a pris la direction de l'OMS en juillet dernier, devenant ainsi le premier Africain à occuper ce poste. La semaine dernière, il avait nommé le président Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté de l'OMS en Afrique. Ce choix avait provoqué une levée de boucliers d'ONG et de pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada. Il dénonce l'effondrement du système de santé du Zimbabwe où la plupart des hôpitaux manquent de médicaments, les infirmières et les médecins sont trop souvent laissés sans salaire. De nombreuses critiques insistant sur le fait que M. Mugabe lui-même, âgé de 93 ans et à la santé fragile, se rendait régulièrement à l'étranger pour recevoir des soins médicaux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les milices iraniennes présentes en Irak doivent partir, a réclamé hier le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Il a aussi lancé une mise en garde aux sociétés qui font des affaires avec les gardiens de la révolution iranienne. Jean-Roger Bion.
Les milices iraniennes qui sont en Irak doivent rentrer chez elles maintenant que le combat contre l'État islamique touche à sa fin, a déclaré Rex Tillerson. Il a assisté à Riyad à la première réunion de la nouvelle commission de coordination saoudo-irakienne lancée solennellement hier par le roi Salman d'Arabie Saoudite et le premier ministre irakien Haider al-Abadi. Face à l'Iran chiite, son grand rival régional, le Royaume sunnite, a entrepris de se rapprocher de Bagdad après des relations difficiles depuis 2003. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine a averti que ceux qui font des affaires avec les gardiens de la révolution ou leurs entités, qu'il s'agisse de sociétés européennes ou d'autres, prennent de gros risques, rappelant que Washington a mis en place de nouvelles sanctions contre ce corps d'élite de l'armée iranienne. Dans la soirée, il s'est rendu à Doha et a déploré que les pays impliqués dans la crise du Golfe, qui oppose notamment l'Arabie Saoudite au Qatar, ne sont toujours pas prêts au dialogue. Sa nouvelle mission, comme la précédente en juillet, n'a pas permis pour l'instant de sortir de l'impasse.
Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, a invité dimanche les Catalans à accepter l'autorité de Madrid et à ignorer les instructions des dirigeants indépendantistes de la région. Mariano Rajoy, président du gouvernement, avait annoncé la veille la dissolution de l'exécutif régional et la mise sous tutelle du Parlement de Barcelone pour sortir de la crise suscitée par le référendum d'autodétermination du 1er octobre. Carles Puigdemont, président de l'exécutif catalan, a jugé les décisions de Madrid inacceptables et a invité le Parlement régional à se réunir pour y répondre. Les députés catalans doivent se réunir lundi pour prendre une décision.
La coalition du Premier ministre japonais Shinzo Abe a conservé sa majorité des 2/3 à la chambre basse du Parlement à l'issue des législatives anticipées de dimanche, ce qui devrait permettre au chef du gouvernement de relancer son projet de réforme de la constitution pacifiste du pays.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho. Blanche Sanou.
La Côte d'Ivoire bénéficie d'un montant de 2,6 milliards de francs CFA de l'Union européenne et de l'UNICEF pour venir en aide à 3 000 enfants vulnérables. Selon APA News, ce programme s'étalera sur 18 mois et permettra l'ouverture et la réhabilitation de 8 centres de réinsertion, notamment à Dabou, Korogo, Guiglo, Odiéné, Sassandra et Abidjan. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jean-François Valette, ce projet est important pour consolider la paix après les crises qui ont frappé le pays. En Afrique du Sud, la vice-ministre des Communications, Mamoloko Koubaï, a déclaré que la South African Airways ne sera pas privatisée malgré les appels du pied du secteur privé. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé les changements au conseil d'administration pour résoudre les problèmes de la compagnie sud-africaine. Au Burkina Faso, l'enquête sur le secteur de l'orpaillage a révélé que les 438 sites d'orpaillage ont produit 9,5 tonnes d'or en 2016. Cette étude réalisée par l'Institut national de la statistique et de la démographie indique que la production artisanale d'or a été estimée à hauteur de 230 milliards de francs CFA, un montant qui provient essentiellement des sites d'orpaillage des régions du sud-ouest, du nord et du centre-est du Burkina.
À présent, les sports avec Élisée Onpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football en Afrique et on connaît les finalistes de la Ligue des Champions.
Oui, le Wydad Athletic Club de Casablanca sera face au National du Caire. Les Marocains se sont qualifiés pour la finale suite à leur victoire contre l'USM Alger 3-1 lors de la demi-finale retour. Ils sont allés chercher le nul 0-0 en Algérie au match aller. Le WAC va donc affronter Al Ahly, qui a étrié au Caire l'étoile du Sahel 6 buts à 2 après avoir perdu de 1 à l'aller. Le match aller est prévu le 29 octobre prochain et le retour sera joué une semaine plus tard.
En Coupe de la CAF, le TP Mazembe va bien défendre son titre.
Tenant du titre, les Corbeaux seront présents en finale de cette compétition. Ils se sont qualifiés en résistant au Fus de Rabat 0-0 au Maroc lors de la demi-finale retour après l'avoir emporté 1-0 à l'aller. Le club de Lubumbashi va donc affronter en finale Super Sport United. Les Sud-Africains ont réalisé l'exploit en allant battre le club africain 3-1.
On connaît aussi le dernier carré du mondial des moins de 17 ans.
Oui, et ça se déroule en Inde. Le Mali tombeur du Ghana 2-1 en quart de finale va affronter l'Espagne qui a écarté l'Iran 3 buts à 1. L'autre demi-finale mettra aux prises l'Angleterre, facile vainqueur des États-Unis 4-1 au Brésil qui a éliminé l'Allemagne 2 buts à 1. Les deux matchs auront lieu mercredi prochain.
La France a vibré ce week-end au son du classique de son football.
Exactement. Et l'OM affrontait au Vélodrome le Paris Saint-Germain et au final, les deux équipes ont fait jeu égal, 2 buts partout. Au classement, Paris compte 4 points d'avance sur Monaco. Marseille est 5e à 2 points de Nantes 3e. Et puis pour finir, du basketball avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA.
LA Lakers contre la Nouvelle-Orléans, 112-119. Oklahoma City contre Minnesota, 113-115. Et Brooklyn Nets contre Atlanta, 116-104. De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la mission des membres du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali, mission qui s'est achevée par une visite dans la région de Mopti. Ils ont rencontré le gouverneur de la région pour faire le point de la situation et évaluer l'apport de la mission onusienne. La délégation a également échangé avec la société civile locale. Les diplomates du Conseil de sécurité ont visité le centre de commandement de la force G5 Sahel où ils ont pu s'entretenir avec le commandant en chef de la force. Avant Mopti, les membres du Conseil de sécurité avaient eu à Bamako, la capitale, des discussions sur la crise malienne avec les différentes parties en présence. Kassim Traoré fait le point.
L'objectif de cette mission était d'évaluer la situation sécuritaire des pays du G5 Sahel, mais également d'identifier l'appui à fournir pour répondre aux menaces auxquelles font face ces pays. C'est pour cela que le président de la République a été la première personne à les recevoir. Ambassadeur François Delattre, chef de la mission.
Le fait, parenthèse, que le Conseil soit là aujourd'hui montre combien cette force du G5 Sahel se combat contre le terrorisme et contre l'ensemble des réseaux qui le nourrissent est au cœur des priorités du Conseil. À partir de là, nous avons eu un entretien extrêmement approfondi, je dirais chaleureux, avec le président de la République, qui nous a fait l'honneur de présenter sa vision des choses, la vision du Mali, qui nous a fait l'honneur aussi d'écouter chacune et chacun des membres du Conseil de sécurité.
Les membres du gouvernement, les groupes armés, les organisations de la société civile, tout comme les femmes, ont échangé avec les membres du Conseil de sécurité. Le même exercice a été refait à Mopti. Général de brigade Sidi Alassane Touré, gouverneur de la région de Mopti.
Et je suis vraiment très confiant. Ils ont compris que les populations souffrent. Ils ont compris qu'en rendant cette force G5 Sahel opérationnelle, ça va beaucoup soulager les populations. Ça va amener la stabilisation de, pas seulement du Mali, mais de... Donc voilà pourquoi il est important que, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'il fasse en sorte que le G5 Sahel, cette force-là, soit opérationnelle et très rapidement, parce que la population souffre.
Les 15 diplomates ont visité le centre de commandement de la force du G5 Sahel, où ils ont pu s'entretenir avec le commandant en chef de la force, le général de division Didier Dakou.
Le plus important, à notre avis, c'est la question relative aux besoins. Vous savez, la force conjointe est sur place depuis quelques moments. Nous sommes séparés ici depuis le mois d'août. Et il y a le poste de commandement du fuseau centre qui est également en place. Mais il y a encore beaucoup qui reste à faire pour opérationnaliser davantage la force conjointe. Nous attendons un appui politique, fondamentalement d'abord une reconnaissance de la force et puis un accompagnement en termes d'équipement, en termes de formation, en termes de développement capacitaire en quelque sorte.
L'ambassadeur français qui conduit la délégation du Conseil de sécurité a tiré le bilan de la mission. Il s'est dit frappé par le message de la société civile de Mopti, François Delattre.
Leur cri de détresse à certains égards est de dire nous avons impérativement besoin de vous, la communauté internationale, pour rétablir des conditions de sécurité décentes dans la région. Et je crois que ce que nous avons pu apporter avec mes collègues comme conviction que la force du G5 Sahel se met en place, qu'elle se met en place de manière professionnelle et qu'elle le fait avec le soutien de la communauté internationale, et de même que nous avons entendu leur message. Et maintenant, c'est à nous, c'est au Conseil de sécurité de mettre en pratique les engagements qui ont été pris et d'apporter à la force du G5 Sahel le soutien dont elle a besoin.
Après 4 jours au Mali, les membres du Conseil de sécurité ont pris la direction du Burkina Faso. Kassim Traoré, de retour de Mopti, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Au Tchad, les magistrats ont reconduit leur mouvement de grève sèche dans toutes les juridictions du pays pour une semaine à compter de ce lundi. Ils revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail et surtout le renouvellement du bureau du Conseil supérieur de la magistrature dont le mandat est arrivé à terme. Le point avec André Kotmadjingar.
Cette grève sèche d'une semaine intervient après celle de 3 jours observée la semaine dernière par le syndicat des magistrats du Tchad et le syndicat autonome des magistrats du Tchad sans succès. Selon le président du syndicat des magistrats du Tchad, Alarakete Sanengar, le non-renouvellement du bureau du Conseil supérieur de la magistrature bloque les jeunes magistrats qui attendent leur affectation depuis plus de 2 ans.
Les instructions ont été données pour que le Conseil supérieur de la magistrature soit renouvelé. Dans un bref délai depuis août jusqu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à trouver 3 millions pour les élections. pendant que plus de 70 jeunes formés sont là en train d'attendre d'être affectés. Parce que le conseil, son mandat arrive à terme depuis novembre de l'année passée. Il ne peut plus statuer sur la vie et sur la carrière des gens.
Ces hommes en touche exigent aussi du gouvernement le relèvement de leurs points d'indice, la dotation des chefs de juridiction en documents officiels de voyage, le remboursement de 2 mois de leur indemnité amputée en 2016 par décret 635 jugé illégal. Cette grève pénalise non seulement les prévenus et détenus des geôles, des brigades et commissariats, mais les justiciables qui traînent dans les couloirs du palais de la justice de N'Djamena.
Un citoyen qui a un problème au niveau de justice, qui t'attend presque 3 mois, 4 mois, parfois, quand tu viens, il n'y a pas les jugements. Aujourd'hui, tant que tu quittes la maison ici, c'est avec les dépenses. Tu viens ici, encore il n'y a rien, tu vas passer toute la journée et puis tout ça, donc c'est déplorable.
Je suis venu du Niger, on a un problème de héritage. C'est à cause de ça que je suis venu aux justices, parce que mes frères sont refusés. Maintenant, j'ai été à la justice, on m'a dit que lundi, il y a une grève. Vraiment, je demande au gouvernement de tout faire pour négocier avec eux, pour bien de la population. Par exemple, moi qui est venu d'extérieur, j'ai laissé ma famille là-bas. Donc vraiment, ça me gêne.
Le président du syndicat des magistrats du Tchad, Alarakete Sanengar, en est conscient, mais il évoque le caractère légitime de ce mouvement de grève.
Bien que vous nous voyez dehors, nous sommes plus en prison qu'eux. Avec quelle conscience le magistrat peut rendre une décision qui puisse aider celui-là qui est en prison avec ces conditions dans lesquelles il a été travaillé? Nous ne revendiquons que notre tranquillité pour travailler justement pour la justice. Donc la responsabilité ne retombera pas sur les magistrats. Le pays a déjà trop de problèmes, nous ne voulons pas lui en ajouter. Mais c'est une revendication légitime parce que ce sont les textes qui nous reconnaissent ces droits-là.
Contacté à plusieurs reprises par VOA Afrique, aucun responsable du ministère de la Justice ne souhaite se prononcer sur ce énième débrayage. Les magistrats dénoncent la mauvaise foi des responsables du ministère de tutelle dans l'exécution des instructions du chef de l'État et estiment que le moment viendra où chacun aura le temps de s'expliquer de sa gestion. André Kodumadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, le 21 octobre dernier marquait le premier anniversaire du déraillement d'un train de voyageurs à la gare d'Esseka, à 130 km de Yaoundé, la capitale. Bilan officiel, 79 morts. Une cérémonie commémorative a été organisée samedi à Esseka, où sera érigée une stèle en mémoire des disparus, selon les autorités. Cependant, un an après cette tragédie, certains ayant droit ne cachent pas leur colère. De Yaoundé, Emmanuel Jules Tap.
Ma femme était dans ce train qu'on ne voit pas. J'avais cité des noms des gens. Est-ce qu'on a interrogé ces gens-là pour savoir si à travers eux, il y a une piste? Si elle est décédée, je ne vois pas comment le corps de mon épouse aurait disparu.
Ces questions de l'avocat camerounais Thomas Dissaké restent sans réponse un an après le déraillement d'un train Camrail à la gare d'Esseka. Débouté en justice à Douala au travers de son conseil, dans l'affaire contre Camrail et son top management relative à la destination finale de son épouse, Maître Dissaké a refusé de se porter partie civile lors d'un autre procès en cours à Esseka, mais ne démord pas.
J'ai initié une procédure en référé contre Camrail et les assurances Activa qui ont commis des détectives pour faire des recherches. Ces recherches étant terminées, ils prétendent que c'est confidentiel. J'estime que c'est un peu trop.
L'avocat de Camrail en appelle finalement au bon sens juridique un an après, Maître Serge Zanguet.
Il y a des choses qui doivent être faites également par Maître Dissaké. Le législateur, depuis 1804, avait prévu qu'il peut y avoir des hypothèses d'accident au terme desquelles quelqu'un n'est pas retrouvé. Or, il faut suivre un cas juridique pour aboutir à cette solution.
Le 21 octobre 2017, un office interreligieux a été organisé à la gare d'Esseka. Le président du conseil d'administration de Camrail a profité de cette cérémonie pour faire le point sur les indemnisations des victimes et la prise en charge des blessés depuis le 21 octobre 2016. Abo Aboubakar.
Plus de 1200 dossiers ont été recensés et ouverts par Camrail et ses assureurs dans le cadre du processus d'indemnisation en cours. Les 3 quarts ont déjà donné lieu à des avances de fonds pour préjudices sociaux et remboursement des frais médicaux. En ce qui concerne les blessés, nous avons largement franchi la barre de 85% des dossiers dont les rapports ont été définitifs et l'évaluation ont été rendues.
Des informations que certains rescapés et ayants droit vont confirmer.
Cameray nous a pris en charge les médicaments, le traitement des médecins.
Concernant celle de Cameray, nous sommes tenus par les avocats et la procédure est encore en cours.
Cameray avait promis de donner un dédommagement, ils l'ont fait et on attend celui du chef de l'État.
Le 1er novembre prochain, une somme de 1 milliard de francs CFA va être octroyée aux victimes et ayants droit de la catastrophe des ECA. Il s'agit d'un appui financier du président Paul Biya. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Bénin, les dénonciations de l'état déplorable des morgues valent des menaces à leur auteur, Médard Koudébi, un agent des services d'hygiène. Selon notre correspondante sur place, ces morgues sont gérées par une véritable mafia dirigée plus par des politiques que par des particuliers et les conditions de traitement des corps y sont horribles. Pour leur part, les autorités observent le silence sur ce scandale. De Cotonou, enquête de notre correspondante Ginette Fleur-Adondé.
Les morgues qui jouissent d'une bonne salubrité peuvent se compter du bout des doigts. Même celle du Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou est dans un état d'insalubrité avancée. Le sujet laisse insensible plus d'un. Personne ne veut fourrer son nez dans un commerce qui nourrit bien de familles. C'est dans la plus grande discrétion que nous avons fait le tour de quelques morgues avec tous les risques que cela comporte. Certaines ont même opté pour des corps séchés au soleil en lieu et place des normes établies. Dans une morgue située à quelques kilomètres de Cotonou, le morguier principal s'est lancé dans un discours qui montre qu'il désapprouve la situation.
Vous allez voir les conditions dans lesquelles on est des corps. Il y a des catastrophes.
Regardez le bas, déjà l'hygiène du bas. Le corps qui est dans l'eau trempé.
Mais les corps qui sont dans l'eau sont plus de
toi, regarde à ta gauche.
Il n'y a même pas de lumière.
C'est des stocks de sardines. Ce n'est plus des corps.
Au Bénin, les morgues prennent l'allure de maisons ou de poissonneries abandonnées auxquelles on a donné quelques touches d'humanité pour accueillir les morts. Mais là où le bas blesse, c'est l'insalubrité qui règne. Dans ces morgues, le manque d'équipement, de formol pouvant aider à la conservation des cadavres. Et le drame reste entier lorsque plus de 8 cadavres se retrouvent dans un seul casier. Meda Koudébi est celui qui tire depuis quelque temps la sonnette d'alarme.
La situation des morgues au Bénin, c'est toute une catastrophe et pratiquement rien n'a été respecté. Il n'y a pas de normes. Et comme le dit les documents, ils ont dit que tout se fait par jurisprudence. Pour vous donner un exemple très simple, des morgues normalement qui sont légalement autorisées, voici dans quelles conditions les corps de nos parents défunts sont conservés, sans parler des usines de la morue humaine où les corps sont séchés au soleil.
Mais que pensent les Béninois sur la gestion des morgues? Silence radio. Les menaces que reçoivent Meda Koudébi et la séquestration dont ont été victimes certains membres de sa famille contraignent les populations à se taire et à laisser le mal ronger le secteur. Cet agent de service d'hygiène qui a préféré rester dans l'anonymat explique que le drame des morgues au Bénin se joue avec la complicité des politiques, pour la plupart propriétaires de ces lieux.
Personne ne veut collaborer avec les morts. Personne ne veut savoir dans quelles conditions ils vivent. Et aujourd'hui, je mets au défi tous les chefs d'État béninois. Je veux qu'un seul président béninois puisse me dire que volontairement il s'est levé un matin et il a décidé de visiter une morgue. Il ne faut pas qu'ils oublient que les gens, avant d'aller à la morgue, ont été des citoyens béninois, ont été membres de l'un ou l'autre des partis politiques qui ont voté pour eux pour qu'ils soient à ce niveau. Au moins par reconnaissance. Il y a même des responsables qui se sont mis en colère pour dire vous êtes en train de vouloir toucher à notre porte-monnaie. Et sur ce plan, nos revenus, on ne va pas vous pardonner.
Aborder le sujet lié au scandale des morgues vous offre en partie à ceux qui y trouvent leur compte. Car en dehors de l'insalubrité et de l'effectif pléthorique, il y a malheureusement le trafic d'organes de mort et de ceux qui, dans le secteur, annoncent jus de morgue et qui permet à certains de faire des rituels de prospérité et de protection. Il y a quelques mois, l'État a ordonné le désengorgement de certaines morgues avec près de 1000 corps non réclamés enterrés dans une fosse commune. Mais cela ne règle pas encore le problème qui exige une volonté politique et un peu d'humanisme. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.